revue de presse de l'April, promouvoir et défendre le logiciel libre.
Semaine 9, année 2016, salut Manu.
Salut Nico.
Salut Luc.
Bon, petite revue de presse, 6 articles.
Oui, hein, c'est petit en comparaison, effectivement. Mais des sujets qui sont quand même pas mal. Donc, les tablettes et téléphones d'une manière générale, les libertés civiles, Android, les armoires et les rapports du CNN NUM, puis texte de Martine Pinville, et pour finir, ordi Linux, le reconditionnement des ordinateurs.
Numérama, où en est le libre face aux tablettes, smartphones et hybrides ? Un article de Corentin Durand.
Donc un article qui fait le tour d'horizon de toutes les solutions libres aujourd'hui, ou plutôt des non-solutions libres autour des téléphones, tablettes et autres.
T'abuses, hein, c'est des solutions, voyons.
Bah disons qu'il y a Firefox OS est pris un peu du plomb dans l'aile avec une annonce de Mozilla, d'autres systèmes qui sont pas encore sortis et qui verront peut-être le jour ou pas. Enfin, c'est
vrai que là-dessus, Ubuntu,
ou les Ubuntu aussi, qui n'ont pas vraiment percé. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, là-dessus, on est vraiment à la traîne, il n'y a pas vraiment beaucoup de solutions libres là-dessus.
Donc le sujet abordé, en fait, c'est l'évolution de l'informatique, qui sont les tablettes, les smartphones, et l'idée surtout d'avoir un outil qui va faire plein de choses à la fois, et notamment c'est un peu le fantasme d'avoir cette idée qu'on a un ordinateur, on arrive chez soi, on le branche et là, paf, ça passe en mode ordinateur, et finalement c'est un seul et même équipement qui va permettre de tout gérer. Et l'article, je trouve vraiment intéressant, documenté, critique, et avec vraiment des éléments. Il revient justement sur le libre, sur la place particulière d'Ubuntu, mais également leur difficulté à convaincre, le fait que leur truc soit buggé, lent, etc. C'est pas très sympa, et ça pointe effectivement un retard du libre dans ce domaine-là.
Bon, retard, je suis pas convaincu parce que, de ce que je sais, Windows galère de la même manière, si ce n'est plus, et je crois que les autres plateformes n'ont pas plus de succès dans ce domaine de l'unification des environnements.
Bah d'ailleurs, ils expliquent assez bien ce qu'ils appellent le syndrome Snapchat, où effectivement Microsoft a perdu vachement de terrain parce que les applications ne sont pas compatibles avec les applications Snapchat
Un certain nombre d'éditeurs ne semblent pas faire du Microsoft sur téléphone.
Du coup, on n'a pas accès à toutes les applications très porteurs du moment, donc Snapchat, qu'est-ce qu'il y a encore à tourner, toutes les applications propriétaires.
On n'y connaît pas grand chose.
C'est vrai que si vous achetez un Windows Phone, vous n'avez pas ces applications-là, et donc les gens sont un peu réticents sur
du libre. Ouais.
Je crois que c'est le problème de l'écosystème que l'on dit, et effectivement, il n'y a pas 36 solutions, si ce n'est des voies qui est abordée, qui est envisagée par tout le monde à un moment donné, c'est de se rendre compatible avec l'écosystème Android, qui est le plus gros, qui profite d'une manne d'applications. Il y a iOS aussi, bien sûr, mais il est beaucoup plus compliqué à atteindre parce qu'il est fermé. C'est un jardin fermé, il y a des hauts murs, des gardes payés par Apple, donc c'est très difficile de rentrer là-dedans.
Donc on va voir qu'Android est ouvert, mais peut-être pas nécessairement très longtemps. Il y a un autre article là-dessus. Bon, il y a quand même quelque chose qui m'a un petit peu dérangé dans cet article-là, qui laisse entendre que le bureau classique, hein, parce qu'il parle de GNOME, ce genre de choses, c'est vraiment complet, et ça c'est vraiment bien. Mais c'est genre, c'est le passé, c'est fini, c'est mort. Or, je pense que c'est vraiment des usages différents. C'est que pendant très longtemps, effectivement, plein de gens ont utilisé un ordinateur classique, parce que c'est ça qu'il y avait, mais pour faire des choses qui sont de l'ordre du loisir, et qu'effectivement, la tablette, c'est vachement bien pour regarder des vidéos, pour lire sa mail vite fait, etc. Mais qu'il y a plein de choses, quand on veut bosser, on n'a pas trouvé mieux que encore que la souris et le clavier. Une fois qu'on aura fini cet enregistrement, moi je vais passer un petit moment à l'éditer, à nettoyer ce genre de choses
avec
Audacity, qui est un logiciel libre, et avec une souris et un clavier. Et je travaille beaucoup plus vite avec une souris, un clavier, un vrai écran, que quelqu'un avec un trackpad ou des machins où il va mettre ses doigts sur un écran, etc. Je défie quiconque d'aller plus vite que moi, que mes raccourcis clavier et ma souris, pour faire ce genre de choses.
C'était surtout le gros reproche qu'on avait fait, en particulier à Windows 8 et Windows 10, où ils avaient pensé uniquement mobile et tablette, et que quand on est en environnement professionnel, c'est quasiment inutilisable. Mobile first et en environnement professionnel, c'est juste pas utilisable. On peut pas utiliser un Windows 10, ça tourne dingue en 10 minutes. Quoi.
La liberté, cyberbataille autour des libertés civiles, un article d'Amaël Guiton.
Dont on a vu des textes précédemment, il me semble, dans d'autres lieux, il me semble, Amaël Guiton.
Oui, on la voit souvent passer justement autour de ces thèmes-là, tout ce qui est hacker, hacker
space. Des relations avec les Suisses, puisque là, c'est Fribourg, donc dans le côté roman de la Suisse, et elle reprend un petit peu ce qui se passe du côté des activistes, les activistes qui peuvent s'écrire aussi souvent avec H-A-C-K, pour reprendre la terminologie hacker, et elle présente un petit peu tout ce qui se passe dans ce domaine-là, avec une magnifique photo d'Anonymous, qui est sympa.
Ouais, les journalistes aiment bien ça, les photos avec des masques, avec des gens, gens dans le noir.
C'est leur... c'est mieux qu'un geek devant son PC.
Voilà.
ça fait.
Non. Mais du coup, l'article parle de plein de choses qu'on a déjà vues. Hein. Ça parle de Anonymous, de WikiLeaks, vraiment des problèmes de liberté aujourd'hui qu'on rencontre un peu partout en Europe et dans le monde. Ça fait un peu le point sur tout ce qui peut arriver, pourquoi on en est arrivé là et qui nous défend, et etc. Donc l'article est plutôt pas mal et il y a pas mal de contenu.
C'est une interview de Gabriela Coleman. C'est pas un article d'un mail. C'est une interview menée par Amel Guiton de cette femme. Et je crois qu'elle est passée dans la revue de presse il y a quelques semaines, parce que le propos me semblait, j'avais l'impression de relire un article qu'on a déjà lu. Et c'est une chercheuse hein, qui a travaillé sur le sujet. Et c'est quelqu'un qui était sur le terrain, je crois qu'elle est anthropologue ou quelque chose comme ça, et qui donc a vraiment été au contact des cœurs, des activistes, comme on dit, etc. Et bon, l'article reprend ce qu'on avait évoqué il y a quelques semaines déjà. Voilà, je pense qu'Amel Guiton a réussi à revendre la même interview une deuxième fois, un deuxième journal, mais c'est très bien. Clubic, Android doit-il rester open source ? Un article de Guillaume Belfiore. Donc voilà la suite de ce dont on parlait tout à l'heure.
Alors ça se termine par un point d'interrogation, donc c'est un troll.
Ouais, bah on verra bien le futur, hein, mais c'est vrai qu'il y a des bruits de couloir comme quoi Android va être fermé.
Alors moi je suis convaincu que c'est dans la lignée des trolls que je vois depuis longtemps. Les libristes ne sont pas contents du succès d'Android, parce que globalement, grâce à Android, du logiciel libre est utilisé par la majorité de la population humaine aujourd'hui. On le porte dans nos poches, on l'a sur nos ordinateurs sous d'autres formes, mais en tout cas Android c'est un succès.
Oui, c'est vrai que grâce à Android des tas de gens peuvent se faire voler leurs données, espionner, enfermer dans des systèmes complètement verrouillés, c'est vraiment génial.
Ouais. T'abuses, point d'interrogation, je savais, hein, c'est un nid à troll ce genre de sujet. Ouais. Effectivement on peut passer par les services de Google par exemple, qui vont garder tout cela pour te faire des publicités ciblées, soi-disant, et effectivement ils vont connaître plus sur toi que quiconque, il y a aucun doute là-dessus, mais tu n'es pas obligé, tu peux désactiver ta connexion avec Google Play et tu peux utiliser d'autres versions d'Android. Tu peux réinstaller une version d'Android pure, hein, on va dire, avec quelques briques malheureusement GSM, Wi-Fi, où on n'a pas vraiment de libre encore pour l'instant, c'est compliqué. Mais globalement, c'est quand même une bonne brique. Et là, la peur qui est remontée dans l'article, c'est cette idée, Google, on peut pas leur faire confiance, c'est vrai. Donc Google va fermer Android là, imminemment, ils sont en train de s'y préparer, ça va arriver tout de suite.
Bah après, ils ont
2017.
Ouais, 2017, mais après, ils avancent quand même des raisons, on va dire, compréhensibles. C'est vrai que si on compare justement iOS avec Android, iOS est très fermé avec un seul market, etc. Donc une certaine uniformisation des terminaux chez iOS qu'il n'y a pas du tout chez Android. Android justement c'est tout
ils
n'importe quoi.
Ils ont du mal à mettre en branle leur nouvelle version, c'est-à-dire que les gens ont tendance à rester sur les anciennes.
Sur les anciennes, donc il y a des failles de sécurité, des problèmes de contrôle même, ou de comment on fait pour dialoguer avec les constructeurs quand on a 10 000 téléphones à supporter. Donc c'est vrai que Google aurait tout intérêt à refermer, à mieux contrôler ce qui se passe.
Mais dans l'idée qu'ils travailleraient sur du matériel, donc pour maîtriser à la fois le matériel et le logiciel. On rappelle que chez Apple, il y avait une étude qui avait été menée sur les recherches iPhone slow. L'universitaire qui a fait ça s'était aperçu que à chaque fois qu'il y avait un nouveau modèle d'iPhone qui sortait, il y avait un gros pic de recherche sur iPhone slow, et que donc manifestement Apple se débrouillait pour que les téléphones se mettent à moins bien fonctionner, pour que les gens en achètent des nouveaux et effectivement passent à la nouvelle version. Et c'est effectivement, elle avait fait la même chose sur des trucs Android, elle avait pas du tout trouvé cette corrélation. Ça laisserait entendre que Google veut faire la même chose qu'Apple.
Alors, on est d'accord, il y a de la fragmentation, mais la fragmentation c'est logique, c'est la suite logique de la liberté qui est donnée, on va bien voir, mais à mon avis Google, ils se casseraient leur marché si jamais ils allaient dans ce sens-là, et probablement qu'ils se mettraient à dos bien tous les constructeurs qui aujourd'hui les aident.
Ça ferait peut-être un gros fork et ce serait génial. Usine Digitale, mauvaise nouvelle pour les armoires, le CNUM ne produira plus de rapport. Un article de Christophe Biss.
Donc on avait déjà fait le point sur le CNUM qui a renouvelé toutes ses équipes la semaine
et
dernière.
Qui a changé de patron.
Qui a changé de patron, etc.
Conseil national du numérique.
Voilà. Là, ils annoncent qu'ils en ont ras-le-bol d'avoir des rapports qui s'entassent, des trucs de 200 pages.
Ouais, enfin, c'est pas le nouveau patron en question qui, en gros, dit qu'il a changé un peu de stratégie. Donc on rappelle son nom, hein, c'est Mounir Majoubi. Et en gros, il a dit on va pas faire un gros rapport pour que le ministre le lise plus ou moins. On va faire autre chose.
Voilà, donc ils veulent faire des feuilles de route ou des espèces de matrices, donc des trucs de très courts, hein, de quelques pages seulement, que ce soit vraiment synthétique et que ça percute bien, plutôt que ça finisse en poussiéré sur une
armoire. La cible, c'est 15 pages, hein, donc en comparaison, c'est ridicule, quoi.
Oui, mais avec quand même derrière des documents pratiques, et avec cette idée de s'adresser non pas au ministre, mais directement aux entreprises, aux gens qui en ont besoin, donc de faire des choses qui seraient plus dans la pratique que de l'ordre de la réflexion. Il y a des choses qui sont plutôt intéressantes dans ce qu'il dit, et notamment qu'il ne suffit plus d'avoir une vision du numérique, mais de s'interroger sur la vision que l'on a de la société à l'ère du numérique. Donc oui, évidemment, ça, on a un peu l'impression que c'est du détail, mais on se rappelle que précédemment, le CNUM avait pris des positions qui n'avaient rien à voir avec l'informatique, hein, quand ils avaient parlé de revenus citoyens, etc. Après ça, il y a d'autres choses, moi, qui m'inquiètent un petit peu, notamment, ils expliquent que dans l'interview qui a été menée, il y a un bon tiers qui parle du logiciel libre, puisqu'on rappelle qu'il n'y a quasiment plus personne qui représente le logiciel libre dans cette institution. Et donc, il avait indiqué que la France devrait avoir une stratégie nationale du logiciel libre, et avec cette idée qu'il avait d'avoir des ingénieurs qui seraient rémunérés d'une façon ou d'une autre autre par la collectivité pour travailler sur des logiciels libres. Ce qui est quand même ambigu, non ?
Bah, Nicolas et moi, on aimerait bien, hein, pourquoi pas ?
Ouais, si on est payé par l'État pour développer du logiciel libre, ça peut être une bonne nouvelle.
Ouais, mais en plus, voilà, ça veut dire que tu peux pas faire de business avec le libre et que c'est nécessairement à fond perdu, que ça n'est pas dans le cadre du business, etc. Enfin, pour moi, je trouve qu'il y a quand même un a priori.
Ça dépend, tu peux être payé par l'État et avoir fait pour développer des solutions vendues après. Enfin, il y a plein de choses à faire, hein, je pense.
Rajoutons l'OS souverain, peut-être qu'il veut aller dans ce sens-là.
Oui, oui, mais en tout cas, moi, je
garde un côté de méfiance par rapport à ça. À creuser, on sait pas trop ce qui se cache derrière, mais bon, ça peut. Au moins qu'ils en parlent, comme ça montre bien qu'ils ont gardé ça à l'esprit, malgré que tous les libristes ont disparu du Cenum.
L'humanité.fr, Martine Pinville, pourquoi l'économie collaborative doit s'inspirer davantage de l'économie sociale et solidaire. Un article, en fait, c'est une tribune, hein, de Martine Pinville.
Ouais, une longue tribune, hein. Il y a plein de textes à lire.
Mais c'est très bien.
Mais c'est pas mal, voilà. Et donc, Martine Pinville, qui est secrétaire d'État chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire. Ouh, des longs titres, tout ça.
Donc, avec ce long titre, eh bien, elle fait un discours où elle présente un peu des idées qui nous plaisent bien. L'économie sociale et solidaire, la démocratie, les entreprises. Souvent, c'est séparé. Souvent, bah, on rassemble pas ces idées-là. Et puis, malheureusement, c'est pas Macron et autres qui le font. Mais elle, au gouvernement, elle a l'air de pousser pour justement introduire des nouveaux éléments.
Ouais, en particulier, elle revient aussi sur les communs. Hein. Y a beaucoup de débats là-dessus, surtout suite au projet de loi numérique.
Où ils n'ont pas eu le droit de citer.
Ils n'ont pas eu le droit, voilà. Mais qui reviennent par la petite porte. Et c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler. C'est bien que les politiques s'accrochent à ça. Et
moi, je trouve intéressant effectivement qu'elle aborde cette question-là. Parce que à chaque fois qu'on parle d'économie collaborative, j'aime bien rappeler que le principe est sympa, mais qu'on a effectivement des gens qui gèrent ça et qui l'abordent de façon totalement privatrice, avec cette idée de « Ok, ça va être collaboratif, on va tous mettre en commun, mais filez-nous vos données et nous, on va les gérer, les contrôler. »
Un exemple, hein, Uber, bien sûr.
Voilà, Uber, c'est encore pire que tout, mais le covoiturage aussi. Hein. Enfin, il y a un acteur qui a bouffé tous les autres, et les gens sont maintenant prisonniers de ce que cet acteur veut bien faire de leurs données, etc., etc. Donc je trouve que cette démarche et ce rapprochement est vachement intéressant et tout à fait pertinent. Et bien entendu, on l'a pas dit, mais elle parle de libre là-dedans, quoi. Développer.com, comment vous allez pouvoir, avec Ordi Linux, reconditionner des ordinateurs. Un article de Idéfix.
Non, ça doit pas être son vrai nom.
Oui, alors, bon, voilà. Il y a des parents farceurs, sinon. Donc, bah, ça parle d'une association qui s'appelle Ordi Linux et qui fait du reconditionnement informatique. C'est un des aspects de ce qu'on peut faire avec du libre, faire tourner des vieilles machines.
Voilà, parce que Windows, bah, si vous n'avez pas la toute dernière machine qui coûte un bras, bah, vous n'arriverez pas à le faire tourner. Alors que Linux, vous pouvez utiliser des vieux systèmes qui ont 10 ans d'existence, ça continuera à marcher sans aucun problème. Et donc les associations récupèrent des vieilles machines, les remettent en état, donc les dépoussièrent, les nettoient, tout ça, et bah, remettent un Linux, ce qui marche très bien, et les permettent du coup de les faire à tarifs très intéressants pour les personnes qui seraient intéressées d'acheter des ordinateurs.
Donc ce que j'ai trouvé intéressant dans l'article, j'avais pas en tête, c'est du reconditionnement, mais en fait c'est vraiment dans l'optique de reprendre des choses qui vont d'habitude être jetées et récupérées de manière un petit peu détruite. C'est-à-dire que souvent quand on va jeter nos ordinateurs, on les jette dans une benne, l'État il est inutilisable derrière, hein, on va juste récupérer des matériaux et on va les envoyer dans les pays du tiers monde, alors que eux, non, ils nous proposent de ne pas jeter nos ordinateurs sous cette forme vraiment barbare, mais de les jeter dans leurs bras pour que eux ils puissent les récupérer, réinstaller du logiciel libre, hein, c'est tout l'intérêt, et redonner une deuxième vie à ces ordinateurs qui, de toute façon, ne sont plus destinés à leur premier usage, hein, c'est des ordinateurs de deuxième main, et clairement, ça s'inscrit dans une optique très écologique au niveau européen. Ils peuvent même obtenir des fonds pour faire cela.
Bien, on a fait le tour de cette revue de presse. Merci à vous deux.
Bon, à la semaine prochaine.
Salut à tout le monde.